France Culture.
Alors, je vais rentrer mes vaches, je les rentre, je les branche, et une fois qu'elles sont à straire, vous venez, peut-être.
C'est à peu près là, comme vous me disiez, et les vaches, elles partent.
Moi, j'arrête le lait. Mais la cause de l'arrêt de l'activité, c'est le revenu. C'est pas l'agribashing, c'est pas le loup, le renard, ni Brigitte Bardot. Tous les gens qui ont arrêté le lait dans ma commune, c'est le revenu. C'est pas ni les corbeaux, ni Ursula von der Leyen. Non, non, je vous rassure tout de suite. Le voleur, c'est celui qui vient dans la cour chercher le lait. C'est les laiteries, c'est les industriels.
Et c'est quoi le bruit qu'on entend là?
C'est la salle de traite. C'est la machine pour traire les vaches.
On y va du coup?
Oui, on y va. On est sur un quai de traite pour traire les vaches. Donc les vaches, elles passent, moi ici, c'est 6 par 6. Et on les branche une par une après. Ça peut arriver qu'il y ait des vaches, pas beaucoup, mais sur un troupeau, on peut en avoir une tous les 2 ans qui ne va pas donner son lait. Donc si elle donne pas son lait, on est obligé de s'en débarrasser. Là, voilà. Voilà. J'ai l'automatique, là je peux mettre en automatique, ça mesure la pression du lait qui coule et la vache se décroche toute seule. En conventionnel, la durée de vie des vaches, salle de traite, robot, tout confondu, c'est à fond, je crois, elles doivent faire 3 lactations, même pas 3 lactations. Donc 3, la vache, elle a 2 ans, allez, on va dire 5 ans. Entre 5 et 6 ans, elles sont mortes. Nous, en bio, on les emmène 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Parce qu'elles produisent moins. Dans le conventionnel, celui qui les pousse à l'aliment, c'est une Formule 1. C'est Alain Prost, Ayrton Senna. Et nous, on est dans des compétitions de loisirs. Mais... voilà. Les autres font du dopage. Nous, on est en roue libre.
Le monde après le spécisme. En finir avec l'oppression des animaux.
C'est fini, là?
Ouais, ceux-là, elles ont fini. Ouais. Mais celle-là aussi, elle a fini.
Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisé par Clémence Grosse.
On va essayer de les faire reculer. Allez, recule. Recule un peu. Recule. Vas-y, recule.
Épisode 2. Allez, vas-y. Ouvrir les yeux, allez, sortir allez. Du déni.
Allez, recule. Allez. Recule.
Alors, je pense qu'on peut situer l'émergence du complexe animalo-industriel à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où là, c'est vraiment le début de l'intensification de l'élevage.
Axel Pleyous-Bror, journaliste scientifique et autrice.
Avec le recours à la zootechnie, qui est ce champ de recherche scientifique appliqué qui vise à augmenter l'efficacité de la production de viande, d'œufs, etc., de réduire les coûts de production et qui a abouti à inonder les menus, les rayons des supermarchés de grosses quantités de viande à très bas coût. Ce qu'on peut dire du complexe animalo-industriel, c'est que ce sont vraiment eux qui tirent les ficelles de la consommation de viande. C'est vraiment leur offre qui crée la demande de plus en plus élevée en viande et en produits d'origine animale. Donc c'est vraiment un système tentaculaire avec une collusion d'intérêts qui organise, qui favorise, qui permet l'existence de l'exploitation animale à grande échelle. Donc on a des noms comme Bigard en France, LDC, le leader français et européen de la volaille, Danone pour les produits laitiers. On a aussi des acteurs qui sont beaucoup moins connus, mais qui façonnent totalement la chaîne de production de viande. Je pense notamment aux sélectionneurs avicoles, c'est-à-dire des entreprises qui font de la sélection génétique. On a Aviagen et Cobb qui se partagent 95% du marché de la sélection génétique aviaire et qui mettent sur le marché des souches génétiques de poulets de chair ou de poules pondeuses pour sans cesse optimiser la productivité de ces animaux, augmenter les rendements, baisser les coûts de production et faire plus de profit, pour le dire vite.
Mon prénom c'est Philippe, mon nom c'est Grégoire. Je suis né en juin 66. J'ai repris l'exploitation des parents le 1er janvier 1988. Les parents souhaitaient qu'il y ait un repreneur. C'est souvent un drame pour les exploitants agricoles lorsqu'ils n'installent pas leurs enfants. Maintenant, comme la situation s'est dégradée, il y en a beaucoup qui empêchent leurs enfants de s'installer. Maintenant, c'est l'inverse. Ils disent, pour te protéger, on va te demander de foutre le camp. Mmh. Pour pas te faire exploiter. Pour pas devenir le petit soldat de l'industrie agroalimentaire. Ils nous ont fait grossir nos élevages. On a beaucoup trop d'animaux à s'occuper par personne. On est endetté. On est tombé dans la spirale de l'endettement. Et là, pour surveiller les animaux, les réseaux d'eau, l'alimentation et tout, si vous avez 1000 animaux à voir dans la matinée, bah, il est facile à comprendre que si on a 50 animaux à s'occuper, ils vont être mieux bichonnés que s'il y en a 1000. Le fait de grossir les élevages, ça nous a emmenés à la catastrophe.
Cet après-midi, il y a des vaches qui partent.
Oui, 22. Il en part 22 cet après-midi. Il en est parti déjà 22 au mois de mars. Et le reste du troupeau part demain, mardi.
Donc, à partir de demain, vous n'avez plus de vaches?
À partir de demain, je sors de prison. Nous étions en prison. Nous étions chez nous dans une prison. Attachés par le réseau économique bancaire, quel qu'il soit, et l'industrie agroalimentaire qui a ruiné les paysans. Donc, mercredi matin, avec ma femme et mes enfants, parce que mes enfants sont jamais partis en vacances avec moi, je pars dans le sud, y a plein de gens que je connais, que j'ai jamais pu aller voir, j'ai pas le droit d'aller les voir, puisque je suis attaché à mes vaches.
Donc là, voir vos vaches
partir. J'étais attaché à mes vaches. Voir mes vaches partir? On va aller arroser ça au restaurant, on a déjà commencé.
Vous dites que vous étiez attaché à vos vaches?
Oui, attaché.
Attaché, ça veut dire aussi être émotionnellement lié. Vous ressentez rien
Rien du tout, parce qu'on est tombé esclave. On pouvait plus sortir pour 800 euros par mois ou 1000 euros par mois. Moi, je dis stop. Exploiter des gens comme ça, je dis stop. Stop. Ceux qui ont fait des lapins comme ça, des volailles ou des porcs, et qui ont réussi à se sortir de l'endettement, qui sont partis chauffeurs poids lourds souvent, ou travailler chez un entrepreneur agricole, ou j'en connais, ils sont maçons, ou voilà. Vous leur ferez jamais élever des lapins, des canards et des cochons. Jamais de leur vie. Terminé. C'est terminé. Pour sortir de là, c'est soit se donner la mort, soit déposer le bilan. Tu peux plus sortir de là. T'es pris. T'es coincé. C'est pour ça que les gens se donnent la mort. Ce week-end, il y en a un qui voulait se donner un coup de fusil encore. On fait ça, nous, au SAMU social. Il voulait se donner un coup de fusil. Donc on prévient le MSA, tout ça, le maire, voilà.
Hein, et là, comment vous l'avez su qu'il voulait se suicider?
Ah bah parce qu'il nous appelle, nous, SAMU social agricole, minuit, 1h du matin. Quand les gens sont pas bien, les premiers commencent à 5h du matin. L'année dernière, il y en a un, il m'a appelé le jour de Noël, il était 7h15, un truc comme ça. Il savait pas qu'on était Noël. Les gens, après, ils sont en burn-out, ils sont dans un autre monde. Alors la femme est partie souvent. Pas toujours, mais souvent elle est déjà partie. Parce que nous, le problème, c'est qu'on est enfermés dans notre bulle, là, qu'on a pris derrière nos parents, et on connaît que notre milieu. On parle agricolo-agricole, comme je dis souvent. On parle que de nos vaches. On est toujours à 2,5 suicides par jour et 6 tentatives de suicide par jour. Il y a des femmes qui se suicident aussi, moins, mais il y a des femmes qui se sont pendues dans leur salle de traite. Moi, je connais très bien ça. Parce que dans mon entourage, je ne vais pas donner de nom, mais auprès de chez moi, coup de fusil, pendaison, hop. Rien qu'autour de chez moi, dans un rayon de 10 km, je peux vous en trouver 15 à 20 déjà. Rien que chez moi. Des amis, des gens avec qui je m'entraînais. Il faut que le consommateur sache que le problème, il est dans la profession. Il est dans les interprofessions, dans la cogestion qu'il y a entre les abattoirs, la FNSEA, les laiteries, cette cogestion-là. C'est un état dans l'état, et c'est ça qui torpille les paysans.
Les images sont terribles quand on regarde les élevages de poulets modernes actuellement en France, mais c'est un élevage extrêmement standardisé et homogène à travers le monde, l'élevage intensif de poulets de chair.
Axel Pleyous-Bror.
On voit littéralement les muscles de la poitrine saillant sous la peau. On peut vraiment voir la forme distincte des blancs de poulet, alors que ce sont encore des poussins. Ils ressemblent déjà à des poulets rôtis en fait. C'est comme si c'était des poulets rôtis pas encore morts. C'est des animaux qui grossissent extrêmement vite et qui deviennent tellement lourds qu'ils peuvent difficilement se déplacer. Donc vous voyez d'énormes poulets blancs qui ne restent pas debout sur leurs pattes, c'est-à-dire qu'ils se déplacent péniblement, mais une fois qu'ils arrivent par exemple à la mangeoire, ou quand ils se déplacent de quelques pas, ils vont retomber sur eux-mêmes. Et parfois des animaux qui se retrouvent sur le dos et qui ne sont plus capables de se retourner, donc ils vont rester sur le dos et mourir de faim ou de soif parce qu'ils ne peuvent plus accéder aux mangeoires et aux pipettes d'eau. Donc c'est des poulets qui atteignent leur poids, ce qu'on appelle le poids d'abattage, donc autour de 2 kg, en 35 à 42 jours, alors qu'il en fallait 160-180 pour atteindre le même poids dans les années 50. On a tellement réduit les animaux d'élevage à des choses qu'on en vient à être incapable de les distinguer les uns des autres. De toute façon, ils sont produits en telle quantité que, très concrètement, dans l'élevage, ils ne sont pas distingués les uns des autres. Ils sont traités comme une matière qu'on fait pousser. Voilà, les poulets d'élevage, c'est limite si c'est pas juste on fait pousser la viande, quoi. Et le fait que la viande soit encapsulée dans un être sentient, c'est anecdotique. Limite, c'est une contrainte pour la filière. Donc ils sont traités comme des choses, et ils sont tellement traités comme des choses qu'on les voit aussi comme des choses, et on n'arrive plus à se rendre compte que ce sont des êtres sensibles.
Bah c'est Anaïs, du coup, voilà, c'est bien elle. Attention, vous.
J'ai toujours vécu dans le milieu de la campagne, j'ai toujours aimé les animaux. À l'époque où on disait on aime les animaux, donc on va travailler dans le milieu agricole. Au début, je voulais être vétérinaire comme toutes les petites filles, et donc du coup, de ça, bah, j'ai continué à toujours vouloir travailler avec les animaux, et c'est comme ça que je me suis dirigée sur le milieu agricole. Donc j'ai été jusqu'en BTS production animale pour être technicienne d'élevage, pour aider à la production, le plus possible de production au niveau des animaux de rente. C'est le côté scientifique de l'agricole, en fait, pour aider à les éleveurs à faire produire le plus possible leurs animaux, que ce soit en termes de viande ou en termes de lait ou tout type animal qui est exploité. Et on fait des stages pendant notre formation. Mais en fait, là où j'ai le plus gros déclic, c'est quand j'ai travaillé 7 mois en élevage porcin.
À quoi ça ressemblait cet élevage ?
De l'extérieur, on voit juste des bâtiments, et de l'intérieur, c'est vraiment l'enfer. Et les bâtiments sont faits en fonction des cycles, des stades de reproduction de la truie et de l'avancée des porcelets. Et toutes les 3 semaines, elles changeaient de stade. C'est-à-dire qu'on partait sur l'insémination. Une fois qu'elles étaient inséminées, elles allaient dans un autre bâtiment pour vivre leur gestation. Et une fois qu'elles étaient prêtes à mettre bas, elles retournaient dans un autre bâtiment. En fait, dès qu'elles mettent bas, elles restent 3 semaines avec leurs petits. Au bout de 3 semaines, les petits sont dit qu'on peut les sevrer. Donc on enlève tous les petits, on les met en bâtiment d'engraissement. Et elles retournent dans un autre bâtiment où elles vont être inséminées. C'est des truies qui sont tellement grosses que le fait d'être enfermée, de ne pas pouvoir bouger sur du béton, elles ont des plaies énormes, des abcès, les pattes n'arrivent pas à les soutenir. Donc en fait, elles partent à l'abattoir parce que soit elles sont plus assez productives en termes du nombre de petits qu'elles font, soit parce qu'elles n'arrivent plus à se lever. Moi, je l'ai vraiment très très mal vécu. Je pense que j'ai, sans le savoir, fait de la dépression par la suite. C'est du béton partout. Les truies vivent dans une odeur que même moi, ça m'a brûlé les sinus avec l'ammoniaque, parce qu'en fait, elles vivent au-dessus de leur lisier. Des excréments, comme ça, en permanence. Donc ça fait des effluves qui remontent et l'ammoniaque nous brûle. Et en plus, elles sont chauffées dans des bâtiments à peu près 30 degrés. Donc je vous laisse imaginer un peu l'atmosphère à l'intérieur. Les cochons, ce sont des animaux qui sont très expressifs, qui peuvent être très vite agressifs quand ils sont stressés. Donc du coup, il y a des hurlements, il y a de l'agressivité. Et donc en plus, on voit des truies qui mordent des barreaux, qui sont enfermées, qui ne comprennent même pas que pourquoi il y a des petits autour d'elles. Des fois, elles les mordent parce qu'elles en ont juste marre d'être là et elles sont pas bien et elles voient ça bouger. Donc en fait, non, c'est quand on est vraiment dedans et qu'on a une prise de conscience, on voit que c'est l'enfer. Je pense que inconsciemment dans la tête, il y a le « c'est normal ». Et c'est à force de le voir que on se dit « non, c'est pas normal de voir ça ». Tout était robotisé, c'est-à-dire qu'en fait, la soupe, elle arrive à heure fixe par machine, par des gros tuyaux qui tombent directement dans une gamelle. Donc là, c'est encore pareil, c'était l'anarchie totale, parce que les truies n'ont que ça en tête, parce qu'elles s'ennuient tellement que quand elles entendent la soupe se mettre en route, elles hurlent, elles tapent, elles attendent que ça. Donc,
Parce qu'elles font quoi le reste de la journée ?
Rien. En fait, elles sont enfermées dans une cage qui fait leur taille, où elles peuvent juste se relever et se coucher. Donc elles font rien d'autre. Il n'y a pas de soins non plus. Enfin, le seul soin qu'il y a, c'est des piqûres d'antibiotiques pour pouvoir soulager les problèmes, surveiller les petits quand ils viennent de naître. Donc c'est entre 11 et 20 petits qu'on veut aujourd'hui. Et encore, 11, c'est le chiffre le plus bas. C'est souvent pour les premières portées. Et sachant qu'une truie, en général, elles ont, que je dise pas de bêtises, elles ont que 8 tétines. Donc déjà là, il y a un problème. Il y a tellement de petits sur une gestation qu'il y a forcément des malformés. Ou alors ils naissent vraiment trop petits et du coup les éleveurs savent qu'en fait ils n'auront pas l'accès suffisant à la tétine et du coup ils vont finir par mourir. Donc autant les éliminer tout de suite en fait. C'est-à-dire qu'on les frappe soit sur une barre en ferraille soit au sol pour pouvoir les tuer. En fait on tape la tête pour les arrêter, pour faire un arrêt cérébral en fait. Je me suis rendu compte qu'en élevage porcin, sous la pression du patron, j'ai été poussée à faire des choses qu'aujourd'hui je me suis dit que jamais je n'aurais fait. Donc oui, j'ai essayé parce qu'on m'a demandé de claquer les porcelets. Je lui ai dit non, j'en suis incapable. Il faut les taper quand même avec une certaine force pour pouvoir les tuer assez rapidement. Sinon, on les loupe et on s'imagine ce que ça fait. Donc l'agonie. Et comme je l'ai loupé à chaque fois, j'ai refusé de le faire. Et il m'a dit c'est pas grave, tu me les tries, tu me les mets dans un endroit, dans une autre caisse et je les ferai.
Comment ça s'appelle tout ça, le fait de couper les queues, de meuler les dents et tout ?
Dans le métier, ça s'appelle les soins au porcelet. C'est limer les dents ou casser les dents, parce que du coup, ils ont les petits crocs qui normalement deviennent des défenses chez les mâles. Et en fait, ces petites dents-là, ils les ont à la naissance. Et donc du coup, ils abîment les tétines détruites. On lime les dents pour ça, on coupe les queues pour qu'il n'y ait plus qu'un petit moignon, parce que c'est pareil, du coup, en fait, les porcelets s'ennuient, vu qu'ils sont sur du béton, et ils se mangent les queues. Donc ça crée des nécroses, des infections, etc. Donc en fait, on coupe les queues, donc les petits hurlent parce qu'ils ont la douleur, les mères s'énervent aussi parce qu'elles ne comprennent pas. Je me souviendrai toujours, alors là, c'est quand c'était à l'école, quand on a appris les gestes, donc les petits hurlaient, donc on voyait qu'ils avaient mal, et dès qu'on les relâchait, ils allaient tout de suite téter la mère. Et donc l'éleveur m'a dit, tu vois, ils tètent, ils vont bien. Et en fait, non, j'ai appris par la suite que la succion, c'était pour les apaiser de la douleur.
Donc c'est une production massive de souffrance et qui est occulté, donc je parlais de la publicité, mais aussi tout ce vocabulaire autour du bien-être animal.
Axel Pleyous-Bror.
Évidemment, les filières, face aux critiques, sont obligées de réagir, de rassurer autour du fait qu'ils ne font pas souffrir les animaux, etc. Toute cette rhétorique, ce bullshit du bien-être animal, en fait, quand on parle de bien-être animal, il faut comprendre qu'on parle de souffrance animale. Il y a tout un vocabulaire euphémisant qui est utilisé pour parler des pratiques d'élevage. Pour moi, j'y vois vraiment un discours idéologique de justification de l'ordre social et notamment du fait qu'on utilise les animaux comme des objets et des animaux.
Donc abattage, c'est un terme un peu paradigmatique parce qu'avant, on disait tuer les animaux, on parlait de tuerie au lieu de parler d'abattoir.
Marie-Claude Marcelier, chercheuse en paléogénétique.
Et donc ça a été remplacé par ce terme abattage qui est très polysémique. On peut abattre des cartes, on peut abattre un mur, on peut abattre des arbres, on peut abattre plein de choses. Donc ça n'éveille pas des émotions chez les humains, contrairement à des termes plus spécifiques comme des meurtres, un assassinat, torture, etc. Donc l'abattage, eh bien, c'est un des mots à succès de l'industrie agroalimentaire. Pour la chasse, on ne va pas parler de meurtre à la chasse, on va parler de prélèvement d'animaux, on va parler de régulation des populations. Parce qu'on ne parle jamais des individus en tant que tels. Ça, c'est une des clés, puisque parler d'un individu, ça induit beaucoup plus d'empathie que parler de masse, ce qui fait qu'on parle du bétail, de la volaille, et jamais des individus. Et il y a aussi ce terme d'étourdissement, qui est assez remarquable aussi, parce que quand même, donc le meurtre des animaux dans les abattoirs, ça se passe en deux étapes pour les grands animaux. Leur cerveau est défoncé par une tige perforante. Ensuite, ils sont saignés. Et ça s'appelle un étourdissement. Et il y a un vocabulaire de la foresterie qui est repris dans le cadre du traitement des cadavres. Donc il y a le terme écarissage. Écarissage, c'est un terme qui s'utilise à la base pour des pierres ou des billes de bois. Bon, il y a le terme habillé, une carcasse. Donc pareil, c'était initialement une bille de bois, un arbre dont on a élagué les branches, il ne reste plus que le tronc principal. Ça s'appelle habiller l'arbre, le transformer en bille d'une certaine manière, et c'est repris pour le traitement des carcasses animales. Tout ce vocabulaire tend à édulcorer le sang en sève.
Les truies, les cochons en général, en fait, ce qui est le plus marquant, c'est qu'ils ont exactement le même œil que nous. Il y a pareil que nous, des yeux bleus, des yeux marrons. Et quand elles nous regardent, en fait, le côté la peau rose, l'œil qui nous ressemble beaucoup, c'est très proche de nous. Donc, en fait, on voit toute la détresse, on voit quand elles sont heureuses aussi, parce que du coup, bah, quand je cherchais à les apaiser au moment de la mise bas, où je les cajolais au niveau du ventre pour la réconforter malgré la douleur, donc tout ça, on le voit à travers leurs yeux, et je pense que c'est une image qui me restera marquée assez longtemps dans la mémoire, en fait. Les yeux des cochons en élevage, c'est ce qui marque le plus, je pense. J'ai été un petit peu en conflit avec mon patron sur le côté, il faut le dire, la sexualité. Bah voilà, une jolie nénette qui débarque dans une ferme. Il y a eu un moment donné où je m'étais penchée aussi sur le côté insémination. Je pouvais avoir la réflexion de bah maintenant on va passer à l'inséminatrice en disant qu'ils allaient m'inséminer moi quoi. Bah non, en fait, ça, c'est hyper choquant. J'avais entre 16 et 18 ans, non, beaucoup de références sexuelles. Alors, on peut rire de tout, mais quand on se retrouve toute seule au milieu d'hommes qu'on connaît pas beaucoup et qu'on nous sort ça, c'est assez choquant quand même. Donc j'étais vraiment, j'avais plus rien envie de faire. Donc au bout d'un moment, c'est moi qui ai dit stop parce que j'étais fatiguée, que ce soit moralement ou physiquement. Rentrer tous les soirs en pleurant, surtout au moment où il y avait ces fameux soins au porcelet, j'ai dit ça va pas le faire. Ça m'a tellement rabaissée que je suis déjà quelqu'un qui me pose toujours la question de est-ce que j'ai pas de confiance en moi-même. Donc là, je l'avais totalement perdue. Donc je suis sortie dans le même état. Bon, on pouvait me mettre à l'abattoir juste derrière. C'était, je suivais le camion. C'était ce qu'on m'a dit, je le ressentais au fond de moi. Je suis maintenant assistante vétérinaire. Comme toute petite, je voulais être vétérinaire. J'ai toujours voulu soigner, vraiment être dans le côté aussi médical, le soin médical. Je travaille dans une clinique où on soigne chiens et chats. On fait des scanners pour comprendre ce qu'ils ont. Il y a une fracture, on va le soigner. Donc moi, ce côté médical de vouloir soigner et aider les animaux, il est présent.
Lorsqu'on étudie les facteurs individuels et les facteurs psychologiques qui sont impliqués dans les violences envers les animaux, on peut lister, bien sûr, un certain nombre de variables de fragilité sociale, de fragilité psychiatrique, émotionnelle, tout ce que vous voulez.
Laurent Beck-Chanclan, professeur de psychologie sociale.
Mais je dirais la plupart du temps, lorsqu'un animal est maltraité sur Terre, ce n'est pas la conséquence de fragilité particulière de la part de la personne qui le maltraite, c'est plutôt effectivement la conséquence de la mise en place d'un système d'exploitation généralisé qui fait que les personnes qui sont aux avant-postes, évidemment, qui sont les opératrices de cette maltraitance, ne sont pas nécessairement marquées par des traits psychologiques et distinctifs de ceux de leurs contemporains. C'est simplement qu'elles sont socialisées, exécutées en fait, des opérations qui vont évidemment avoir des conséquences nocives sur les animaux.
Alors, est-ce que les enfants, vous êtes déjà allés dans une salle de traite ? Est-ce que vous êtes déjà allés dans une ferme où il y a des vaches ?
Journée nationale de l'agriculture.
Est-ce que vous connaissez les races de vaches ?
Paris, juin 2025.
La noire route.
Ce bain de spécisme, eh bien, il va tout de même être intensifié par l'acculturation. C'est-à-dire qu'on va être en contact avec des animaux en tant qu'enfant et comme tous les êtres vivants, eh bien, nous avons une forme d'intérêt, d'attention, de curiosité pour les autres vivants, un attachement même pour des formes de vie. Donc cet attachement-là, eh bien, il va nous porter à considérer tout de même ces animaux, notamment lorsqu'on est enfant. Et donc cette frontière en termes de valeur, eh bien, de considération morale, elle va être beaucoup moins marquée chez les enfants que chez les adolescents ou chez les adultes. C'est comme si la société finalement travaillait à l'inculquer à travers ces systèmes culturels.
Je rappelle que la traite, c'est deux fois par jour, hein, très souvent, le matin et le soir. Et on a 10 à 12 heures d'intervalle entre les deux traites. Tiens, viens, tu vas travailler un peu. T'imagines que là, il y a de la mousse qui sort. Hein. Comme c'est une fausse vache, on n'en a pas mis. Voilà, et tu le mets. C'est fleur. Oui, je ne vous ai pas dit, hein, ma petite vache, ça fait une fleur. Toutes les vaches ont un prénom. Elles sont contentes, les vaches, de venir à la salle de traite. Hein. Qui tête normalement sous la vache ? Le traiteur ? Le ? Oui, ça, c'est le petit veau. Allez, je vais brancher la vache, comme on dit. Si je prends le cas de Fleur, par exemple, elle va faire à peu près du lait. Elle va produire du lait pendant une dizaine de mois, hein, après la naissance du veau. Parce qu'à un moment donné, on va arrêter de la traire. On appelle ça la période de tarissement. Pendant 2 mois, on arrête de traire la vache. C'est son petit congé maternité chez la vache, avant qu'elle donne la naissance à nouveau. Bon, ben merci. Si vous voulez un petit verre de lait, on a le petit lait, un petit verre de lait fraise ou nature à vous offrir. Et voilà.
Ces animaux-là, si pour des raisons culturelles, mais également des raisons, une fois morphologiques, nous parlent, nous interrogent, on les regarde, on peut voir leurs yeux, on peut discerner des similarités. Et donc ces animaux-là, il nous pose problème lorsqu'on va les faire passer dans une casserole parce qu'effectivement, il faut inventer en fait des justifications. On peut être évidemment amené à consommer des animaux parce qu'on croit qu'ils sont dénués de capacités que nous valorisons et nous serions du coup beaucoup moins enclins à pouvoir les consommer si nous pensions qu'ils ont les mêmes capacités. Alors, lorsqu'on présente des animaux à des personnes et qu'on leur fait croire que les animaux sont dotés de capacités, ça augmente le dégoût et ça diminue l'envie de les consommer. La montaphobie, c'est un terme qui renvoie à l'idée que nous avons des difficultés à reconnaître la conscience, reconnaître la vie réflexive chez les animaux. Donc cette espèce de peur d'attribuer aux animaux des capacités cognitives, de leur attribuer finalement un univers mental. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est ce qui est à l'origine de notre propre auto-attribution de valeur. Nous sommes des êtres de vie intérieure, de pensée, donc si eux aussi en jouissent, en bénéficient, eh bien, comment justifier qu'on les utilise, qu'on les exploite ? Et donc, on va finalement nier leur capacité mentale et que quiconque a un animal de compagnie, eh bien, ne peut ignorer.
C'est toi qui as demandé à venir aujourd'hui pour voir des animaux ?
Oui, j'ai demandé à ma mamie parce que en fait, j'ai vu une affiche par terre. Et
Amélie.
Il disait que ici, il y avait des moutons et je me suis dit, oh mais j'aime bien les moutons.
Est-ce qu'ils ont l'air bien là ?
Moi, je crois que non parce qu'en fait, ils sont enfermés. Pour moi, c'est un peu petit cet endroit et normalement, ils devraient être dans quelque chose de plus grand. Comme ça, ils ont un peu l'air d'être en liberté parce que là, celui de la tête noire, il a bousculé le bébé parce qu'il n'avait pas de place. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et c'est grand comment ?
Pour moi, c'est... Je sais pas vraiment comment expliquer. Mais normalement, pour moi, ça fait un peu la taille de mon jacuzzi. Tout petit.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de manger du mouton ?
Oui, mais très rarement. Mais quand je les mange, parfois je suis triste. Et je mange pas tout. Je mange un peu la moitié ou parfois 1 ou 2 ou 3 ou 4, mais c'est pas beaucoup quoi, parce que moi ça me fait de la peine de manger comme les vaches, les cochons, les canards, des animaux comme ça. Et c'est pour ça que moi j'ai envie d'être végétarienne. Et ma mère, elle veut pareil, et du coup c'est ce qu'on essaye de faire, de devenir un peu végétarienne.
Qu'est-ce que ça mange une végétarienne ?
Bah, on mange de la nourriture sans des animaux. On mange pas de la vache, on mange pas des moutons, on mange pas des animaux, quoi. Parce que la première fois que j'ai vu une poule comme les réfrigérateurs, mais avec des trucs, et dedans, il y a les poules qui tournent comme ça, je me dis, mais c'est quoi ça ? Moi, j'ai dit, mais c'est une poule, elle est vivante. Ma maman, elle a dit, non, elle est morte. Et c'est à ce moment-là que j'ai craqué pour les animaux, j'étais un peu triste et tout. Là, je me suis dit, je préfère être végétarienne. Je sais que parfois ils souffrent et tout. Moi, je trouve que c'est ça.
Et si tu devais te réincarner, ce serait en quoi ?
Vu comme on est heureuse ici avec notre nourriture bio, nos soins, nos pâturages et ce bon air, je pense que je me réincarnerai en moi.
T'es pas bête, toi ?
Du bon lait bio produit par des vaches heureuses.
Lait de vache, vachement bio.
Vachement bon.
Et les petits miams, du bio pour les enfants.
Je pense que la publicité, c'est vraiment un matériau fascinant pour comprendre la façon dont on perçoit les animaux et toute l'idéologie pour verrouiller la situation dans laquelle les animaux sont. J'ai essayé de comprendre les différentes façons dont les animaux sont présentés, dont les produits d'origine animale sont présentés. Donc tout à l'heure, je parlais du fait qu'il y avait une occultation, une création d'ignorance sur les conditions de production de ces produits. On a l'impression que le produit il tombe du ciel, qu'il est pur et il n'est pas souillé du processus de production.
C'est bon d'être uni, vache tirée.
Et un autre élément très marquant dans la publicité, c'est le fait de présenter les animaux comme complices de leur propre exploitation, de leur propre mise sur le marché de la consommation. La suicide food, qu'on peut traduire par nourriture suicidaire, où en fait c'est toutes des représentations un peu cartoonesques, souvent c'est des dessins, où on voit les animaux qui participent activement à leur propre exploitation. Donc ça va être par exemple des publicités où on voit des vaches laitières qui conduisent elles-mêmes le camion de récolte du lait qui va de ferme en ferme pour récolter le lait. Il y a une publicité de Le Gaulois du groupe LDC, le volailler LDC, qui montre des poules dans un élevage avec des ballots de paille, etc., qui dansent le French cancan à l'intérieur du poulailler.
C'est parce qu'elles sont préparées avec des volailles 100% françaises que les grignotes Le Gaulois ont un goût et une saveur unique. Volaille Le Gaulois, 100% français.
C'est des animaux heureux, qui s'offrent eux-mêmes à la consommation. Donc on a beaucoup de représentations sur les boucheries ou devant les magasins ou devant ce qu'on appelle les chicken shops. Donc c'est toutes ces enseignes de fast-food spécialisées dans la viande de poulet frit où on voit des poulets qui sont tout sourire, des poulets qui vous présentent eux-mêmes une cuisse de poulet. C'est pour vraiment occulter totalement l'idée qu'il pourrait y avoir un problème de souffrance animale derrière ces produits-là. Puisque si les animaux sont complices de la consommation de viande, alors il ne peut pas y avoir de victimes dans la production de viande.
Le fromage qui plaît aux petits et aux grands, c'est la vache qui vit, c'est la vache, oui, 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 c'est la vache qui vit, c'est la vache, c'est la vache qui vit.
Si la vache qui rit n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Dans la publicité, soit les produits d'origine animale, donc la viande, elle est présentée comme juste le produit final, le résultat final, donc un morceau de viande appétissant, avec tout un champ lexical autour de la tendresse de la viande, le goût délicieux, l'onctuosité du produit, le plaisir, la convivialité. Et surtout, on va nous présenter ce produit comme étant disponible ex nihilo, c'est-à-dire il tombe un peu du ciel, il n'a pas d'origine. C'est un produit qui n'a pas nécessité de violence ou toute une organisation en amont pour qu'on arrive à ce produit final.
Donc l'invisibilisation, et puis après, bien sûr, on peut se convaincre qu'en fait, nous sommes obligés de les consommer pour survivre. Donc c'est évidemment, c'est un conte, hein, c'est un narratif qui nous permet de nous auto-persuader que finalement, eh bien, nous vivons dans un monde dans lequel, si nous ne consommons pas les animaux, nous disparaissons, ou bien nous serions éventuellement exposés à des carences, à des problèmes de santé. Et tout cela, évidemment, ça rend impérieuse, en fait, cette consommation.
Alors depuis toute petite, j'ai un lien particulier avec les animaux. Je dis toujours que je suis antispéciste de naissance comme beaucoup d'enfants. Je pense simplement que j'étais pas au courant de la réalité des animaux dits de rente, donc je consommais des produits animaux comme n'importe qui.
Virginia Marcus, fondatrice de l'association Coexister.
Et c'est venu à l'âge de 18 ans où j'ai en fait vraiment commencé à réaliser. J'ai été virée de l'école quand j'étais adolescente et j'ai dû partir travailler à l'école hôtelière de Genève pendant une année. J'ai adoré travailler là-bas et en fait là-bas, on travaillait les produits animaux tout le temps. Donc le tartare de bœuf, le poulet rôti, les mignardises dans lesquelles il y a énormément de crème, de beurre, etc. Et en fait, ma spécialité, c'était de désosser les poulets devant les clients. C'était une forme de prestige de montrer comment on désosse les poulets pour que ça soit vraiment, gastronomiquement parlant, intéressant. Et je pratiquais ça. Et donc, la journée, je désossais des poulets, j'effilais des poissons, je préparais des tartares de bœuf. C'était vraiment une fierté pour moi et j'enseignais ça à d'autres élèves de l'école hôtelière. Mais en fait, à force de travailler cette chair, j'ai eu comme un genre de rejet. En fait, après une année, je me suis dit, mais c'est quand même deg, quoi, de travailler de la chair tout le temps. Et je crois que là, j'ai commencé à faire le lien déjà. Je me suis posé la question, peut-être un peu naïvement, mais est-ce que ces animaux étaient des êtres sensibles à la base? Est-ce qu'ils étaient sensibles comme les chevaux, les lapins, les chiens, les chats que je connais? Donc ça a été un déclic majeur. Donc à 18 ans, je suis devenue végétarienne déjà à ce moment-là, mais je militais pas vraiment. Je mangeais beaucoup de fromage à ce moment-là, parce que souvent, quand on devient végétarien, on mange énormément de fromage pour compenser. Et on se rassure, en termes de conscience, on se dit « Non, mais pour le lait, il n'y a pas de mal, quoi. Enfin, la vache, elle donne du lait, c'est comme ça. C'est ce qu'on croit, en tout cas. » Et à 24 ans, j'ai été visiter une ferme de vaches laitières bio. Et là, je regardais les vaches au pâturage. sans cornes, et je voyais des veaux dans des boxes propres, hein, avec de la paille, etc., mais des boxes isolées les uns des autres. Donc ils étaient les uns à côté des autres, mais pas en groupe, et ils étaient surtout pas avec le troupeau de maman. Et en fait, là, je me suis assise avec un veau. Je crois que j'ai commencé à comprendre par moi-même, déjà, en fait, pourquoi est-ce qu'on devait le séparer, mais j'avais besoin que ça soit explicitement dit. Donc j'ai posé la question à l'éleveur, j'ai demandé pourquoi est-ce que le veau n'était pas avec sa mère. Et il m'a regardé d'un air très dédaigneux, il me dit « Mais tu manges du fromage ou pas ?» Et je dis « Bah oui, je mange du fromage. Bon, bah si tu manges du fromage, je dois commercialiser le lait des vaches, je peux pas le donner au veau. » Et donc, la logique de l'élevage, c'est « Ok, on commercialise le lait pour les humains qui n'en ont pas besoin, fondamentalement. » Et on retire ce lait au veau qui, à la base, en a besoin, et lui, on le bouchoie. Donc il m'a dit, bah voilà, ce veau, il va rester là quelques jours, et après, il va partir à l'abattoir. Et en fait, dans le regard de ce veau, je me suis dit, ok, là, maintenant, je me fais une promesse. Je ne vais pas juste arrêter de manger des produits laitiers et consommer de la chair animale. Je vais porter la voix de ce veau et de ses congénères dans l'espace public, et ça, jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Et en fait, de fil en aiguille, l'association coexistait, a été créé dans le but de passer vraiment à l'action. Mon but, c'était de sortir de la théorie, donc il y avait un peu ces étapes à suivre. Il y avait la dénonciation, la critique du système, militer pour vraiment se positionner en société et induire des changements, et le fait d'instaurer un débat public important et nécessaire. Et ensuite, c'était de montrer concrètement des solutions. Et là, je me suis dit, en fait, à un moment donné, ça va se mettre sur ma route, mais mon but, c'est vraiment d'accompagner les éleveuses et les éleveurs qui le souhaitent dans une reconversion, parce que je pense que c'est une boucle qui se boucle, en fait. Et c'est là que, en 2021, Stéphane et Valérie ont débarqué au sanctuaire. C'était les tout premiers éleveurs-éleveuses que j'accompagnais à ce moment-là. Et ils sont venus au sanctuaire non pas pour se reconvertir, à ce moment-là, on parlait même pas de ça. Ils sont venus au sanctuaire parce qu'ils ne pouvaient plus eux-mêmes faire abattre des animaux et ils voulaient me replacer leur dernière vache. Ça a commencé comme ça.
Kylian, on va faire 10 caracs. Tu mets 200-200, 200 de choc, 200 de crème. Quand ils sont prêts, tu les mets au congèle, on les glace et puis on envoie. D'accord ? Merci, Kylian. Voilà, c'est une spécialité un peu de chez nous, quoi. C'est une crème végétale qui est à base de lupin. C'est une crème qu'on va couper avec de l'eau pour faire atteindre le taux de matière grasse le même que le lait, pour faire du lait végétal. Voilà. Alors moi, je me présente, je m'appelle Stéphane. J'ai 52 ans et puis je suis boulanger pâtissier végétal, ancien éleveur. Alors depuis tout petit, j'ai toujours voulu avoir des vaches, mais le problème, c'est que nous, on n'avait pas de vaches. Du coup, je me suis dit, ben, si un jour j'ai l'occasion d'acheter une maison, de préférence une ferme, c'est avec plaisir que j'achète une ferme. Et en plus, si je peux mettre des animaux dedans, ben, ce serait parfait, quoi. Et l'occasion s'est présentée une dizaine d'années après. Et puis là, j'ai pu acheter une ferme. Et là, j'ai transformé cette ferme. J'ai remis des animaux dedans. J'ai mis des chèvres, j'ai mis des cochons. Et j'ai trouvé ma première vache, Réglisse, qui trône là-haut. Et c'est avec elle que toute l'aventure a commencé. Et puis là, mon idée, c'était de dire, bah, je monte une micro-ferme où j'avais à cœur de les amener jusqu'au bout. Et puis, cette fierté de manger des produits qu'on avait fabriqués, qu'on avait élevés et fabriqués. Ils avaient tous des prénoms. Et puis, c'est là le truc, c'est que bah, tu t'y attaches. Donc, tu mets œuf et puis tu te dis, bah, ok, Réglisse, par exemple, quand je l'ai acheté, j'ai su qu'elle, jamais, elle passera à la boucherie. C'était ma première vache. Et puis la deuxième, tu te détaches un peu. Puis la troisième, tu te détaches un peu plus. Puis la quatrième, tu l'aimes toujours autant, mais tu peux chaque fois mettre un peu plus de recul. J'essayais de me détacher justement en mettant des prétextes, en me disant, bah voilà, finalement, la chance que j'ai de pouvoir élever ce cochon, l'abattre et préparer. Parce que nous, on préparait tout de A à Z. On faisait avec ce pétrin qui est là. On faisait toute la saucisse à rôtir, on faisait toutes les préparations. Et c'était un plaisir. Donc tu te mets des barrières chaque fois. Une bête, tu viens, tu la prends, tu descends, tu la charges dans la bétaillère, tu vas à l'abattoir. Nous, on la tenait jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le boucher arrivait et qu'il mettait la cartouche, ben nous, on le tenait. Je décrochais la cloche puis je repartais. Tu te fonds dans le moule. Puis tu es persuadé que c'est juste et puis tu te dis de toute façon, tout le monde va en bénéficier. Les gens qui venaient chez nous, ils avaient un monstre plaisir parce qu'on laissait rassir 3 semaines, 1 mois. Et puis cette viande, elle fondait dans l'assiette. Pour eux, c'était parfait, quoi. Et puis, j'ai dû amener un veau. C'est un petit abattoir qui est situé à 20 km d'où on habite, hein, parce qu'on essayait d'éviter de faire des grands transports. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, il y avait, je pense, 1h30 de retard. Ton veau, il attend. Tu vois qu'il commence à stresser. T'as le poil qui se dresse, il écume et tout. Et puis, au moment qu'on a dû le détacher pour l'amener à la boucherie, il s'est cabré. Du coup, moi, je l'ai retenu pour le tirer en bas. puis pour que lui, il puisse être à la bonne hauteur pour pouvoir lui mettre une cartouche entre les deux yeux, quoi. Sinon, il partait en plein centre-ville. Et puis ça, je suis persuadé que c'était déjà le premier message, clair et net. Nous, on a toujours voulu assister, quoi. C'était une manière de déculpabiliser. Tu dis, il est bien parti, il est bien tombé, c'est bon, j'ai fait juste.
Ça veut dire quoi, tomber ?
Ben, quand ils l'abattent, ils tombent. Puis on entend ce... Je sais pas, ouais, j'espère que vous n'aurez jamais l'occasion d'entendre ce bruit, mais c'est vraiment le... Boum ! Tombe par terre. C'est un bruit assez spécial. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était quand on a dû aller à Clarens. À Clarens, c'est un abattoir qui est beaucoup plus grand que celui qui est à B. Il tue les cochons, et mes cochons étaient trop gros. Donc, ils ne pouvaient pas passer dans la marmite à B. Du coup, j'ai dû aller à Clarens, où ils avaient des énormes marmites, où ils prenaient des cochons qui faisaient passer 100 kilos, quoi. C'est une grosse marmite d'eau chaude. C'est des rouleaux avec des palettes en plastique. Quand tu les plonges dedans, le rouleau tourne et ça les pèle. On ne peut pas dire que ça les blanchit, mais ça enlève cette première couche, quoi. Puis à Clarens, bah, ils tuent à 4 heures le matin à peu près 300 cochons à la fois. Et j'arrive à l'abattoir et il y a une espèce de plateforme qui descend pour pouvoir les amener dans le couloir et éviter qu'ils remontent. Si par hasard, ils s'échappent, ils ne peuvent pas remonter et partir dans la ville ou je ne sais quoi. Et après, ils referment les portes. Et moi, ça devait être 5 heures du matin, au moment qu'ils rentrent dans ce couloir, les portes, il restait à peu près 10 cm en dessous. Parmi ces 300 cochons, il y avait 3 à moi. Et je vous promets que je les entendais derrière. Et puis, ils m'appelaient, quoi. Ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en gros, c'était chaud, quoi. Moi, j'entendais que mes 3 cochons. J'ai vécu avec eux pendant 8 mois. Je savais le bruit qu'ils faisaient, ces 3 cochons. Et quand j'ai refermé ma porte de bétailière, j'ai dit, c'est terminé. Je ne peux plus. Là, c'était vraiment de la trahison pure et dure, quoi. Trahison. Il n'y a que l'être humain qui arrive, puis qui caresse, et puis pendant qu'il caresse, boum. Moi, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Pour petite anecdote, nous, on habite à l'entrée du village. Et à l'entrée du village, on a un petit pré où on mettait toujours nos cochons. Et le week-end, les gens arrêtaient leur bagnole pour aller caresser les cochons. Et moi, ironiquement, je leur disais, vous savez que c'est ce que vous allez manger. Et les mecs, ils étaient là, ah non, c'est pas possible, vous pouvez pas les tuer et tout. Je dis, mais vous croyez quoi ? Vous croyez que moi, je suis plus capable que vous ? Moi, ça me fait chier aussi de les tuer, mais ma foi, on n'a pas le choix. Parce qu'ils sont dehors, ça vous pose problème, et quand ils sont dans la barquette, ça vous pose aucun problème. Pensez juste ce qui s'est passé avant. Et quelques temps après, j'entends un soir à la radio quelqu'un qui parlait de sanctuaire pour les animaux. Puis je dis à ma femme, je dis, Éval, c'est quoi cette histoire de sanctuaire pour les animaux ? Je dis, je vais l'appeler. Alors, à minuit le soir, je l'appelle. Puis je dis, c'est quoi cette histoire de sanctuaire et tout ? Il me dit, ouais, écoutez, un sanctuaire, c'est où tu peux placer tes vaches. Et puis, elles peuvent vivre heureuses. Je dis, mais c'est fantastique. Puis elle me dit, mais écoutez, moi, j'arrête. Par contre, il y a Virginia Marcus qui a un sanctuaire. Alors, pris le téléphone, discuté. Puis je dis, écoute, je vais venir chez toi. Puis après, je me disais, bah, autant les placer mes vaches, c'est un antispéciste qui ne la bouffera pas. Parce que le problème, il est là. Tu peux les placer n'importe où, puis d'un coup, le type, il lui manque des ronds, puis il dit, bah, je vends tes 2 vaches, et puis fini, terminé. Donc je dis, allez, rendez-vous, il est pris. On s'est posé dans le pré, on a discuté 3 heures. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, ok, maintenant, il faut qu'on se repositionne. Et je discutais un petit peu avec Virginia, je dis, t'en penses quoi et tout. Puis elle me dit, ouvre une boulangerie végétale. Là, tu tousses, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle me raconte, là ? Je dis, écoute, Virginia, je veux bien arrêter de manger de la viande, mais du végétal. Pas d'œufs, pas de beurre, pas de ci, pas de ça. Je vois pas l'intérêt de manger des produits avec rien du tout dedans, quoi. Et j'ai dit, écoute, on va faire un deal. Tu me laisses 6 mois pour que je réfléchisse où je vais, comment je vais faire. Et dans 6 mois, on ouvre une boulangerie végétale. Top là. 6 mois après, on ouvrait la boulangerie végétale ici. Aujourd'hui, on gagne notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le salaire minimum, mais on vit.
Avec L214, jusqu'ici, on s'est concentré pour essayer de faire reculer les pires pratiques.
Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214.
Donc, par exemple, on a obtenu une loi qui interdit partiellement le broyage des poussins. On a obtenu le recul des cages pour les poules. On a obtenu l'engagement des entreprises à renoncer aux pires pratiques pour les cochons et pour les poulets. C'est encore en cours. Mais on n'a pas fait reculer le nombre d'animaux tués pour la consommation alimentaire française. Ça ne recule pas et même ça augmente. La consommation de viande, elle stagne à 80 kg par an et par personne, 30 kg d'animaux marins. C'est énorme en fait. Pour la viande, on est à deux fois la moyenne mondiale. Alors que pour les protéines végétales, pour les légumineuses, on est six fois moins que la moyenne mondiale.
Ces abattoirs sont situés maintenant très loin des villes. Il n'y a jamais de panneaux de signalisation pour indiquer leur emplacement.
Marie-Claude Marcelier, chercheuse en paléogénétique.
Les abattoirs, c'est des systèmes clos. Et en plus, non seulement ils sont clos par rapport à l'extérieur, mais l'endroit même où a lieu le meurtre est lui aussi enfermé. En fait, personne n'a la double vision de l'animal vivant et de l'animal mort. Ceux qui tuent, ils voient l'animal vivant, et puis, enfin, ou qui étourdissent, ils voient l'animal vivant, et puis après, ça disparaît. Et de l'autre côté, ils voient un animal qui est déjà mort, pratiquement. Personne ne donne vraiment la mort, et donc la mort disparaît.
Quand on a commencé à être bénévole, militant pour la cause animale, beaucoup de gens dans la rue, quand on leur distribuait des tracts et qu'on décrivait les conditions d'élevage des animaux, nous disaient « Ah non, mais ça, c'est pas en France. Ça, jamais nous, on fait ça. C'est pas en France, c'est aux États-Unis. C'est dans les pays de l'Est, mais nous, en France, on fait pas comme ça. » Ou alors on nous dit « Oui, mais ça, c'était il y a 50 ans. Maintenant, on fait plus du tout comme ça. » Et donc, les images, elles permettent de montrer que c'est ici et maintenant que ça se passe. Quand on a montré les images, notamment de l'abattoir de Alès, l'abattage des bovins, avec et sans étourdissement, des chevaux, des cochons, notamment à Alès, c'était par asphyxie au gaz. Donc, on avait vraiment une palette d'images assez intense, jamais vue, jamais réalisée, jamais reprise, en tout cas en France. On avait déjà montré des images d'abattoirs, notamment l'abattoir Char à la Messe en 2009. Mais là, les médias s'en sont emparés et du coup, ces images ont été vues.
Tu peux commencer à explorer, à regarder.
Et ces images, elles ont choqué, non pas parce qu'il y avait des infractions à la réglementation, personne ne connaît la réglementation, mais vraiment parce qu'il était possible de croiser le regard des animaux, de pouvoir voir leur attitude, une attitude de fuite, une attitude de peur, une attitude de terreur. Et je pense que c'est ça qui a marqué les gens, le fait de se rendre compte, finalement, du prix de la viande, du prix payé par les animaux pour la viande. Et des fois, c'est les réactions qu'on a. Les abattoirs dont on montre les images, on nous dit « Non, 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 mais c'est pas... C'est des images montées, c'est truqué, c'est pas comme ça que ça se passe. » Nous, on attend encore que les abattoirs sortent les images. Alors, c'est quoi les images en face? Comment c'est que ça se passe bien? Ben non, personne n'est capable de le montrer. Donc on a besoin d'entretenir ça, parce qu'en face de nous, on a une espèce de rouleau compresseur de publicité pour faire oublier, et de discours aussi, de discours. Même nos ministres, nos élus, nient l'existence de l'élevage intensif en France. C'est quand même incroyable.
Tous ces animaux qui meurent, qui défilent et qui sont remplacés par d'autres animaux. C'est une espèce de chaîne infinie. Chaque fois qu'un animal meurt, y en a un autre qui va être mis en production. Ça produit un peu une déréalisation. On a un état stable. En fait, il y a toujours le même nombre d'animaux vivants et chaque animal qui disparaît est instantanément remplacé. Donc c'est comme s'il n'avait pas disparu d'une certaine manière.
Allez, allez, allez! Venez, venez, c'est ouvert, c'est ouvert! Il y en a deux.
Je suis la cofondatrice d'un groupe qui s'appelle 269 Libération Animale et qui a tenté et cherché à politiser la question animale depuis 2015.
Tiffaine Lagarde.
Je pense qu'on a besoin d'offensivité dans nos luttes et surtout dans celle-ci qui est très invisible, qui est toujours très secondaire, qui est beaucoup moquée, beaucoup ignorée. Et je pense qu'on a besoin de s'imposer dans le débat et pour s'imposer, faire aussi usage de méthodes d'action qui soient offensives. Donc pour moi, les mots offensifs, radicales, etc. ne sont pas du tout des injures, bien au contraire, c'est quelque chose qu'on recherche. Un jour, j'ai rencontré une personne qui partageait la même vision que moi en 2015. Cette personne, c'est le cofondateur de 269 Libération Animale. Et on voyait passer les bétaillères qui allaient vers l'abattoir de Saint-Étienne. Et un soir, on s'est dit, mais en fait, c'est là-bas que ça se passe, finalement, ce qu'on combat. Et nous n'y sommes jamais allés. Il y a quelque chose d'illogique, donc on va y aller. Et une fois qu'on a mis le pas dans l'abattoir, il a transformé nos vies.
C'est un lieu qui vous anéantit, qui vous engloutit à jamais. C'est là, à partir de cette première nuit, que nous avons décidé de passer à l'action directe et d'attaquer là où les animaux meurent, en fait. Alors cette première nuit, en fait, je m'en souviens encore, je pourrais décrire chaque sensation. Et tout d'un coup, c'est l'odeur qui vous attrape en premier. C'est comme une corde qui s'enroule autour de votre cou, ça vous saisit. C'est l'odeur de la mort et du sang. Et puis on arrive par l'arrière de l'abattoir, on coupe le grillage et on arrive vers ce qu'on appelle la bouverie. La bouverie d'un abattoir, c'est le lieu où attendent les animaux avant l'abattage qui se passe au petit matin. Et très souvent, dans les gros abattoirs français, les animaux arrivent le soir, la veille, vers 23h, minuit, 1h. Du matin. Donc quand nous sommes arrivés, il y avait déjà beaucoup d'animaux dans cette bouverie, des veaux et des vaches. Et là, c'est vraiment être enseveli en fait, sous les plaintes, les regards. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et ma vie a changé pour toujours à partir de cette nuit et surtout en marchant en fait le long des couloirs. J'arrive vers un taureau qui avait dû être déchargé le dernier. Il n'y avait plus de place dans les parcs d'attente traditionnels. Et lui, il était là dans le couloir, donc dans un carcan de métal. Il était dans un état de stress qu'on ne peut imaginer. Il soufflait très fort, il tapait de toutes ses forces dans les barreaux de métal. Et voilà, ça a été quelque chose qui m'a bouleversée. Et à partir de ce moment-là, on s'est regardé avec l'ex-cofondateur et on s'est dit, c'est là qu'il faut être. Notre place qu'on cherche depuis longtemps, elle est là. En fait, elle est entre lui et le couteau. Donc à partir de ce moment-là, on a monté ce qu'on appelle des blocages d'abattoirs, organisé des blocages d'abattoirs, donc se mettre dans le couloir pour empêcher que les animaux soient tués. Dès le début, on a essayé de viser des grands groupes de l'exploitation animale parce qu'on voulait apporter un discours anticapitaliste et surtout un message systémique, c'est-à-dire de faire comprendre que l'ennemi, ce n'est pas la personne qui mange de la viande, c'est les personnes qui créent ce système d'exploitation animale. Et ces personnes-là, elles ont un nom, elles ont une adresse. Elles font énormément d'argent sur le dos de l'exploitation animale et pour nous, c'était beaucoup plus intéressant d'aller frapper là que d'aller dans la rue le samedi après-midi pour convaincre monsieur ou madame tout le monde de manger un petit peu moins de viande. Et les compagnies d'assurance, aujourd'hui on le sait, ne remboursent pas par exemple le dommage créé par un blocage d'abattoir. Donc on sait que la perte, elle va être sèche. Pour moi, une lutte ne peut pas exister si elle ne représente pas une menace. Donc l'action directe permet aussi d'arriver à cet objectif-là, que d'exister, mais comme une menace, que d'exister comme un mouvement offensif. Des gens qui sont capables aujourd'hui de s'organiser et de rentrer dans un abattoir et de dire stop, j'appuie sur le bouton stop et je le fais et je vais rester là dans votre abattoir. Ça n'a pas tout de suite été fortement réprimé parce qu'il y avait 10-15 personnes. Et puis quand ça a commencé à devenir des grands blocages d'abattoirs avec plus de monde, quand on a commencé aussi à être médiatisé, la répression s'est accrue. Et on est passé à des condamnations de prison avec sursis assez rapidement, au bout d'un an et demi. Donc qui dit condamnation de prison avec sursis, évidemment, c'est comme une paire de menottes, hein, puisque vous êtes un petit peu en quelque sorte en liberté surveillée et on ne pouvait plus agir sur le territoire français, mais on a su rebondir et puis ensuite on s'est reporté vers d'autres pays européens. Alors cette dernière action, elle était pensée depuis plusieurs mois en amont. Et en Italie, il y a quelques années, j'avais croisé un abattoir qui s'appelle l'abattoir Ilco, qui est le plus grand abattoir d'agneaux en Italie. Donc c'est un abattoir qui est vraiment dans une zone rurale. Il y a quelque chose de presque irréel en fait quand on tombe sur cet abattoir, parce que c'est très beau. Il est dans le Latium italien, donc c'est vers Rome. Et vous êtes dans cette belle nature et tout d'un coup, en bas de la vallée, il y a cet énorme abattoir, vraiment dans une structure en plus un peu vieillotte, etc. Mais il est immense. Donc, quelques mois avant, je réunis des camarades de tout pays européen, puisqu'aujourd'hui, 209 sont groupes hein, d'activistes. Les personnes qui font les actions directes, c'est des personnes qui viennent de pays divers et variés. Angleterre, Espagne, Italie, bien sûr, Suisse, France, Allemagne, même Pologne. Donc toutes ces personnes-là sont convoquées. Je leur parle de mon idée, du projet. Tout le monde est très emballé parce qu'on se dit on va faire et une libération et un blocage d'abattoir le même jour. Donc je sais que je dois mettre en place un plan en fait qui articule deux actions en une, à la fois un blocage par l'avant et une libération par l'arrière. cet abattoir, devant il y a une grande route principale et à l'arrière il y a une petite route de montagne qui part vers la Toscane. Et c'est cette route par laquelle en fait on pourra exfiltrer les animaux qu'on va sortir. Et cette route, elle s'appelait la route des brigands. Donc vraiment, c'était voilà, presque du cinéma. Et c'est une petite route qui nous a permis d'exfiltrer tous les animaux sans repasser par la route principale, puisqu'il faut savoir que la police a été prévenue très tôt de notre intrusion, vu qu'il y a un gardien. Donc on savait qu'on avait 10 minutes pour les emmener loin, et pas une de plus, donc il ne fallait pas repasser par la route principale. Donc tout était vraiment parfait, prévu au millimètre près. Donc là, je lance le top départ, et les personnes qui font le blocage arrivent par l'avant de l'abattoir et font exprès de faire beaucoup, beaucoup de bruit pour attirer l'attention. Donc elles hurlent, elles disent voilà, au feu les abattoirs, les gens arrivent en faisant de grands dérapages sur le parking de l'abattoir. Donc le gardien évidemment sort et est attiré vers l'avant de l'abattoir, et là hop, nous discrètement on se dirige vers le fond, vers la bouverie en fait, et on attrape les agneaux, on porte les agneaux qui sont en fait beaucoup plus lourds que ce qu'on avait prévu. Ils n'ont pas 3-4 mois mais plutôt 5-6 mois et ils sont très très lourds.
T'as besoin d'aide ? Viens, on t'aide. Ici. Tenez. Si. Viens. Viens.
Ça se capane.
Viens.
Ça se capane.
Si. Ça se capane.
Et là commence un véritable exploit, puisqu'il faut porter ces agneaux-là qui font près de peut-être 25-30 kilos déjà à travers le champ jusqu'à la voiture qui doit les transporter.
Aide-moi, Lucie, aide-moi. Aide-moi. Tu veux que je le porte ? Pose-le là. Attends. Il faut mettre les pattes sous mon épaule.
Sur ton épaule ? Tu vas le porter sur ton dos ? Attends, pose-le parce que vous avez besoin d'être deux pour les passer de l'autre côté.
Donc tout se passe bien, on réussit à emporter les agneaux, le blocage d'abattoir ensuite a duré à peu près 8-9 heures. Et pourtant, voilà, la police italienne a été extrêmement violente avec les militants et ils ont été emmenés au commissariat, dans les commissariats environnants. Et puis ils sont ressortis au bout de quelques heures libres, heureusement. Mais voilà, c'était une très belle action. Et ce qui était beau, c'est que lorsque les militants pour le blocage d'abattoir ont été évacués vers les commissariats, toutes les personnes du village avoisinant sont sorties devant chez elles et saluaient les militants qui étaient dans le bus, qui allaient vers le commissariat. Donc ça a été, voilà, dans le village et les villages environnants, ça a été quelque chose d'assez spectaculaire, forcément. Et ce que je dis toujours, c'est que l'action directe, elle finit les rêves de fuite des animaux. Eux, ils commencent les choses et nous, on les termine avec eux.
Allez, bébé. C'est bien. Voilà.
Allez, moi, je me casse. Les outils, c'est pour vous, non ?
Bye, bye.
Après le spécisme, une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Clémence Gross. Avec Philippe, Axel Pleyous-Bror, Anaïs, Amélie, Laurent Beck-Chanclan, Brigitte Gauthière, Stéphane, Virginia Marcus et Tiffaine Lagarde. Prise de son, Romain Lequiens, Mileta Diawara, Manon Moussin, Stéphane Foulon, Olivier Arnay et Valentin Bobinet. Mixage, Claire Levasseur. Documentation musicale, Antoine Vuillose. Documentation, Anne-Lise Signoret et Hervé Evano. Illustration, Anaïs Isbert. Collaboration, Iris Pessarossi. Merci à Lucie Aragon, Victor Durand-Lepeuche, Alexis Gauthier et Jimmy Gouédard de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Chargée de programme, Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'application Radio France. À suivre, épisode 3, l'animalisation, matrice de toutes les dominations.